Interview.
6 Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Bruno Robin, bonjour.
Bonjour.
Et de Babi Robin, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler de la saison estivale de l'ancien monastère de Sainte-Croix. Une saison qui commence cette fin mai avec un vernissage, je crois.
Oui, une exposition donc, de Marion Fontaine et le 21 mai, le vernissage de cette expo. Tout à fait.
Une exposition pour commencer cette saison. Et puis, il y aura des rendez-vous pris encore avec la peinture. Et ensuite, des concerts, du jazz et puis d'autres propositions.
Alors, le premier concert est le 1er juin. C'est un concert de piano solo. Je dis à mon piano ce que j'ai à te dire. C'est un très joli titre. Par Marie-Hélène Barrier, et en fait c'est un concert lecture. Elle joue bien sûr du piano, des œuvres classiques, Chopin, Liszt, Schubert, mais elle commente les œuvres au fur et à mesure et fait participer le public. Alors juste par rapport à ce concert, sur les petits dépliants, il est annoncé qu'il était entrée libre au chapeau, et en fait c'est une erreur. Finalement, c'est à 15 euros l'entrée et 10 euros tarif réduit.
Cet artiste est de quel endroit ?
De Die. Elle est arrivée dans le Diwa il y a peu de temps et elle intervient régulièrement dans les écoles avec les enfants. Elle est capable de faire participer le public sur son piano.
Des moments de piano avec des œuvres de Chopin, Liszt et Schubert.
Oui.
Plutôt du romantisme.
Voilà, du romantisme, mais qu'elle arrive à, j'allais dire décomplexer, c'est pas tout à fait ça, mais disons à mettre à la portée vraiment de n'importe quel public.
Il y a d'autres dates ?
Pour les concerts, oui. En fait, cette année, au monastère, il y a juste 3 concerts. C'est moins que d'habitude. Mais la saison est réduite à cause de la crise sanitaire qui nous a obligés à démarrer plus tard. Donc le deuxième concert est le 2 juillet, et là c'est un autre style, c'est Mocha. Donc c'est un groupe de 4 musiciens, c'est du jazz, du blues, de la rumba. Ça va être un très beau concert dansant qui dure 1h15, voilà, et qu'on espère pouvoir faire dans la cour du monastère.
Les propositions que l'on trouve sur le programme de l'ancien monastère, vous promouvez particulièrement des artistes de la région ?
Alors les deux, c'est-à-dire qu'en fait on va pas à la pêche. Ce sont des candidatures qui arrivent spontanément au monastère. On en a beaucoup. Et à l'intérieur de tout, donc la commission culture étudie les différentes candidatures et on essaye d'offrir une certaine diversité, aussi bien dans le style de musique que pour l'âge du public, etc.
L'organisation de ce festival est une des facettes de l'ancien monastère.
Oui, ça fait partie des objectifs donc, de la SIC, hein, Société Coopérative, donc, dont l'objet est plutôt financier, en tout cas c'est l'hébergement de groupes. Mais parmi les objectifs, il y a la culture, hein, donc il y a l'ouverture sur le territoire, etc. Et donc la culture fait vraiment partie des activités du monastère. Voilà, et donc d'où ces expos, ces spectacles, ces résidences aussi qui peuvent avoir lieu.
Le 28 juillet, un concert Résonance et Illumination. Donc, quel style de musique ?
Alors là, c'est très particulier. En fait, c'est du chant. C'est Samuel Catio qui est un contre-ténor et qui, en fait, improvise. Et son projet tourne autour du patrimoine et des jardins. Donc, c'est vraiment adapté au monastère. Et donc, il improvise en chantant mais il est accompagné de musiciens qui vont suivre aussi l'improvisation. Ce sont des très grandes pointures qu'on a la chance de, qui nous permettent de nous les proposer pour l'accompagner. Et donc, on ne sait pas encore exactement s'il y aura 3 ou 4 musiciens, mais il sera accompagné et ça sera de l'improvisation. Oui, il est à la fois contre-ténor et baryton. Donc, ça naviguera entre les deux registres.
Et le registre musical sera de quel
domaine ?
C'est
contemporain.
Contemporain.
C'est contemporain.
C'est une démarche inventé ou alors est-ce qu'il y a peut-être anciennement ce type de manifestation avec une improvisation
oui,
accompagnée ?
Oui, en fait, oui, même au Moyen-Âge, hein, les chanteurs en fait, avaient des modalités, mais ils improvisaient très souvent finalement. Même le grégorien a une part d'improvisation. Et là, lui, Samuel Catio, a une culture très classique au départ. Mais aujourd'hui, à partir de tout son travail autour de la voix, il se permet en plus d'improviser de façon contemporaine.
À la suite, on passera à la peinture avec Patricia Thibault dès le 11 juin.
Tout à fait, on va enchaîner donc à peu près donc une exposition par mois. C'est 3 semaines en fait par exposition. Pour revenir quand même un tout petit peu sur la première exposition, puis après on pourra parler peut-être un petit peu des autres. Donc de Marion Fontaine qui va commencer donc le 21 mai avec le vernissage, je le signale parce que ça vaut le coup de venir à ce moment-là parce qu'on est sûr de rencontrer l'artiste. Donc, c'est des peintures, c'est dessins, aquarelles et peintures assez extraordinaires, donc qui évoquent les fonds sous-marins un petit peu, et aussi bien les brumes, l'eau. Et c'est vraiment d'un graphisme et d'une poésie incroyable. Elle se revendique un petit peu de dessins provenant d'Asie. Elle parle aussi de la beauté des paysages du Vercors qui sont souvent brumeux, etc. Mais vraiment, c'est un très, très beau travail. Donc, ça sera du 21 mai au 9 juin. Donc ça, c'est une artiste qui habite à Die, qui vient de région parisienne. Ensuite, ça enchaîne avec Patricia Thibault. Patricia Thibault, ce sont des peintures abstraites, souvent de grand format, mais pas que. C'est assez extraordinaire, d'une très grande vitalité, par couches de peinture qui s'accumulent. Et c'est très, très beau. Donc ça, c'était plutôt abstrait. Et on enchaîne le 2 juillet avec une peinture beaucoup plus descriptive, figurative. Et donc, c'est une japonaise, Yumiko Ono, et qui a eu des prix, de nombreux prix de peinture. Et elle se dégage une atmosphère assez extraordinaire de ses tableaux. Alors, on enchaîne pendant le mois de juillet, du 23 juillet au 11 août, avec un peintre qu'on a beaucoup aimé à la Commission Culture. Donc c'est Serge Thibault, qui est en même temps entre l'abstrait et le figuratif. Et donc c'est des dessins très très libres et des couleurs absolument flamboyantes qui sont magnifiques. Et donc pour terminer la saison, Guillaume Copé et Karine Marie. Guillaume Copé, c'est du dessin. C'est du dessin abstrait, encore une fois, et d'une infinie poésie. C'est des traces de crayons sur la... Voilà. Et Karine Marie, qui est aussi... qui termine la saison, qui est aussi, donc... qui habite à Die, ou qui a habité à Die jusqu'il y a très, très récemment. Et c'est des aquarelles, et ça évoque beaucoup les paysages de Glandas, du Vercors, etc. Et ça interroge la mémoire, en fait.
Alors, voilà. Il y a une commission artistique. Donc, ces artistes sont venus à vous pour proposer leur œuvre à exposer, c'est ça ?
On fait un appel à candidature, en réalité. Donc, tous les ans, il y a un appel à candidature à la Maison des Arts, des artistes.
Qui a lieu vers quelle période ?
Qui a lieu, c'est juste à la sortie de l'été. Et donc, les candidatures sont à remettre. Donc, ça couvre toute la France, en fait. Hein. Et les candidatures sont à remettre avant la fin de l'année. Et la commission se réunit fin décembre pour choisir les artistes qui seront retenus. Il y a souvent beaucoup plus d'artistes que de places disponibles, puisque Donc cette année, c'est 6 expositions. C'est arrivé que ça aille jusqu'à 9. Mais bien souvent, on a plus de 20 candidatures ou de 20 à 30 candidatures. Donc on est obligé de faire une sélection, mais c'est intéressant aussi. Voilà.
Parfois douloureuses, les sélections ?
Toujours. Toujours douloureuse, bien sûr, évidemment. Parce que... Alors, on essaie de diversifier, en fait. Il y a plusieurs critères. D'une part, qu'on aime, bien sûr, ce qui est présenté, mais aussi, si c'est possible, de diversifier les supports, que ce soit peinture, mais pourquoi pas sculpture, mais pourquoi pas... Cette année, c'est essentiellement peinture et dessin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois de la photo, des fois de la vannerie.
Ces concerts, on peut en continuer aussi. Hein. On n'a pas parlé du dernier.
Alors,
le jardin imaginaire, je crois.
Alors voilà, mais ça c'est particulier, c'est une sortie de résidence, parce que le monastère accueille aussi des résidences pour artistes, sauf cette année, qui est une année encore particulière, donc les résidences ont été suspendues, sauf une, qui est celle-ci, parce qu'on a le droit d'être subventionné par le département pour une seule résidence. C'est Samuel Catio, donc celui qui a fait un concert en juillet, qui a été sélectionné pour faire sa résidence, et c'est sur un autre projet qui s'appelle Le Jardin Imaginaire, et donc il va faire une résidence d'ailleurs à plusieurs périodes de l'année, il va travailler beaucoup avec les élèves de DI, de collège et de l'école de musique. Et quand on fait une résidence d'artiste, à la fin de la résidence, on offre le travail qui a été fait dans le lieu. C'est la contrepartie du prêt des lieux. Donc, il y aura un concert de sortie de résidence le 13 octobre.
On peut reprendre aussi l'ancien monastère. Hein, qu'est-ce qu'on peut y trouver, en plus de ces rendez-vous culturels? C'est un lieu aussi qui permet des séminaires, en quelque sorte.
Oui, c'est un très beau bâtiment donc, qui domine la Drôme, etc. Bon, donc, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, pour un monastère, mais c'est parce qu'il était ouvert, il accueillait les malades, etc. Donc, il avait intérêt à être vu par rapport à d'autres qui étaient cachés. Et donc, son activité principale... Donc, qui le fait vivre, c'est l'accueil de groupe, mais en fait c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc il y a d'autres activités qui sont le travail avec les acteurs du territoire. Donc il y a des produits qui sont vendus à l'accueil. Hein. Il y a une boutique, mais qu'avec des producteurs locaux. Il y a donc ces activités culturelles, il y a des activités sur des accueils de woofing. Donc il y a les jardins sont très importants et donc de plus en plus vont se développer la mise en valeur des jardins. Voilà. Et dans les groupes qui sont accueillis, il y a donc toutes sortes de groupes. Il n'y a pas de type... mais... Malgré tout, il y a beaucoup de groupes qui viennent pour des raisons culturelles et qui sont soit un séminaire, soit une université qui vient en dehors des périodes scolaires, etc. Et ça arrive assez fréquemment. Voilà.
Les arts plastiques.
Et puis donc, ce côté SIC, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs collèges et il y a beaucoup de bénévoles qui participent à la vie du lieu. Donc aussi bien donc, dans la commission culture, mais pas seulement. Il y a une commission bâtie où il y a aussi beaucoup de bénévoles. Il y a une commission des jardins. Voilà, donc c'est vraiment la polyvalence, l'être ensemble, enfin l'ouverture fait partie des objectifs du contrat de l'ancien monastère. Ouais.
À vous entendre, Babi, tout à l'heure, en fonction de ces ouvertures pour ces concerts, vous disiez donc devoir avoir dû réduire la programmation de cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la contrainte qui vous a amené à cette solution ?
Oui, jusqu'à, je ne sais plus exactement la date, mais c'était fin mars, je crois. On ne savait pas si le pass sanitaire allait continuer à être obligatoire. Nous, quand on fait la programmation, on fait ça fin décembre, début janvier, parce qu'après, il faut prévenir les artistes, il faut éditer une plaquette. Bon, donc, à cette époque-là, on ne savait absolument pas quelles allaient être les conditions sanitaires imposées au monastère en 2022. Donc on s'est dit, comme ça a été très compliqué en 2021, on s'est dit on va reculer déjà et on en saura peut-être plus. On avait entendu parler de la fin mars ou du 15 avril où ça devait s'assouplir, ce qui s'est passé effectivement. C'est pour ça qu'on a décidé de ne démarrer qu'en mai pour les expositions et même en juin pour les concerts. Alors évidemment, ça réduit. Et de même, à l'époque, on ne savait pas si à l'automne ou l'hiver suivant, ça n'allait pas reprendre, parce que comme l'année dernière, comme ça a été très ouvert l'été, après l'épidémie a repris de plus belle, il y a eu une nouvelle vague. Donc tout ça, on était un peu frileux et on a fait le choix, la commission, de réduire à quelques mois.
Quelques renseignements pratiques à fournir aussi aux auditeurs pour ce festival durant l'année.
Déjà, il y a une buvette qui donc c'est très sympathique parce qu'à chaque spectacle, qui sont généralement dans la cour à cette saison-là, on peut se retrouver autour de la buvette et échanger, partager, etc. Bon, cette année, il n'y aura pas vraiment de restauration prévue, ou alors de la toute petite restauration, mais il n'y aura pas de repas vraiment proposés au moment des concerts. On a été obligé de simplifier au maximum.
Oui, ce qu'on peut dire aussi donc, pour les gens qui écoutent, c'est que vraiment, ce monastère, c'est un très beau lieu. Quoi. Et quand on rentre dans la cour, etc., c'est un endroit qui est magnifique. Et ce n'est pas simplement la beauté du lieu, c'est aussi l'esprit qui y règne. Et c'est pas mal qu'il y ait cette double activité d'hébergement et d'ouverture aussi à la culture, ce qui fait que c'est un lieu ouvert. Les spectacles, c'est pas dans une salle de spectacle qui est guindée, on sait pas trop comment arriver. Les expos, c'est pareil, c'est des magnifiques couloirs qui sont à l'intérieur du monastère, mais c'est pas comme une galerie d'art, voilà. Et donc ça donne un côté plus naturel en fait, voilà. Et donc souvent, les gens qui viennent, s'y sentent bien et adhèrent et deviennent des adhérents.
Là, on sort d'une réunion, justement, à l'ancien monastère, où on a retenu les deux mots qui nous paraissaient importants. C'était à la fois la qualité et la simplicité. Ces deux mots nous paraissaient incarner ce lieu, l'équipe qui la dirige et la programmation qu'on essaye de...
Il y a aussi des rendez-vous tout au long de l'année.
Oui. Cette année, c'est le tour de Festiwild. Donc, c'est le dernier week-end de septembre. C'est du 23 au 25 septembre. Et donc, ça, c'est un festival de la vie sauvage pendant lequel il y a des conférences, des projections, des expositions, des débats. Enfin, c'est très, très riche avec beaucoup d'intervenants. Qui sont concernés directement ou indirectement par la vie sauvage.
Quand vous organisez des ouvertures, ne serait-ce que pour des séminaires, où il y a possibilité de logement aussi, d'hébergement ?
Alors, bien sûr, il y a
c'est le principe,
55 places, je crois, d'hébergement. Alors, bien sûr, les groupes dont parlait Bruno tout à l'heure, les groupes qui sont accueillis, généralement, viennent au moins une semaine et sont hébergés. Hein. C'est un lieu d'hébergement de groupe.
De groupe. C'est-à-dire, c'est pas un hôtel où on arrive le soir.
On vient pas pour une nuit tout seul. Ouais. Voilà, c'est un lieu d'hébergement de groupe.
Peut-être dire aussi qu'il y a, donc des salles qui accueillent aussi bien les expositions, mais des spectacles, mais des concerts, etc. Donc à l'intérieur de l'ancien monastère. Et il y a aussi une grande salle qui est juste à côté, qui donne sur la place de Sainte-Croix. Donc la salle des Antonins, c'est une ancienne salle de cinéma, voilà. Et c'est un très beau volume, donc qui accueille aussi des groupes. Il est pas, il y a un projet au monastère de réhabiliter et d'aménager ce bâtiment. Mais n'empêche que, même en l'état, il permet de faire des manifestations.
Des grands spectacles, c'est la plus grande salle,
qui fait plus de 200 mètres carrés, donc c'est intéressant. Ouais. Voilà.
Pour le théâtre, il y a aussi quelques projets.
Habituellement, dans les candidatures pour les spectacles, on a des propositions de théâtre. Malheureusement, cette année, il n'y en avait pas. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai été peinée de ça, parce que c'est bien d'ailleurs quand ça alterne. Mais là, on n'avait pas de proposition. Donc, ben, il n'y en a pas.
Voilà, ça dépend des années. C'est comme nous pour, la, pour les expositions. On n'a pas de sculpteur, mais voilà, il y en aura d'autres.
Mais on est très ouvert à ce qu'il y en ait.
S'il y a des artistes qui écoutent, là, donc ils n'hésitent pas à proposer leur candidature. Et
au
donc,
monastère.
Au monastère, bien sûr. Et donc, que ce soit photo, il y a eu des sculptures de tissu, il y a eu de la vannerie, mais artistique, et ce n'est pas simplement le panier. Tout est possible, y compris le land art, par exemple. C'est-à-dire que là, ça pourrait être une intervention réellement dans les jardins du monastère. Et pas simplement des sculptures exposées dans le jardin, mais comment faire des œuvres d'art à partir de la... De la végétation du jardin, des cailloux, de je ne sais pas quoi.
Voilà. Il y a toujours ce jardin botanique.
Et oui. Il y a toujours ce jardin botanique, voilà, qui est très intéressant. Donc il y a une personne dont c'est qui en a la charge plus particulièrement. Hein.
Voilà. D'ailleurs, vous avez titré cette saison 2022 et c'est la culture qui reprend vie.
Voilà, voilà, on est très très content de ça. Et on rappelle le... Ça commence par le vernissage de Marion Fontaine, des très belles aquarelles et encres, le 21 mai. Voilà, et ça durera, cette expo, jusqu'au 9 juin.
Pour tout renseignement également, allez sur le site internet www.le-du-6-monastère.org. Voilà, vous aurez toutes les données et renseignements sur le site.
Voilà.
Et les mises à jour aussi.
Tout à fait.
Bruno Robin et Babi Robin, vous êtes membre du conseil d'administration.
Non, moi je l'ai été là, mais je suis parti du conseil d'administration. Enfin, j'étais à la fin de mon mandat il y a un peu plus d'un an, donc j'en faisais partie. Mais donc maintenant, je fais partie de la commission. Je reste bien sûr sociétaire du monastère. Je fais partie de la commission donc culture et aussi de la commission travaux. Voilà.
Tout à l'heure, vous disiez être nombreux hein, dans toutes ces commissions. Et combien de personnes sont autour de ce projet ?
Ben, il y a le petit noyau central et puis un peu plus large, puis un peu plus large. En ce moment, on recrute donc, réellement donc, ceux qui seraient intéressés. Alors on recrute soit pour faire partie de façon intense, c'est-à-dire tenir un peu la barque hein, de cette commission culture. Donc il y a des réunions régulièrement, mais c'est évidemment pendant l'été, pendant toutes ces périodes-là, c'est plus dense. Mais aussi, il peut y avoir juste des interventions ponctuelles. Donc, s'il y a des gens et des bonnes volontés qui viennent pour tenir la buvette ou pour...
La billetterie.
Voilà, la billetterie. Donc, c'est un vrai boulot. Et il y a des périodes où on a besoin de petites mains.
Est-ce que vous envisagez d'autres organisations thématiques dans ce genre ?
On avait pensé, mais je ne sais même pas s'il faut le dire, mais l'année dernière, on avait essayé de réfléchir à un festival métissé. Voilà. Mais d'un point de vue pas que musique, culinaire, artistique, enfin, ça peut être des tissus, ça peut être de la musique. Bon, voilà, on avait commencé à réfléchir là-dessus, même à cibler des artistes. Et puis c'était impossible de prévoir un festival dans les conditions qu'il y avait. Voilà. Comme là, il y a FestiWild. Bon, là, pour l'instant...
Donc, il faut qu'on retrouve notre rythme normal, mais voilà, on continue d'avoir des envies voilà, et de se projeter sur l'avenir.
Bruno Robin et Babi Robin, voilà. Je vous remercie tous deux d'être venus à Herdiwa.
Merci
pour
à vous.
Parler de l'ancien monastère et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Merci.
Au revoir.